Chapitre 12. À l'exception peut-être de mon ascension nocturne en solo du volcan Erebus dans l'Antarctique, dans les années 1930, aucune escalade ne me parut aussi belle et agréable que celle de cette nuit de mai de 1925 sur l'arête nord de l'Everest entre le camp 4 à 7000 mètres d'altitude et le camp 6 à 8200 mètres. Elle présentait sans doute le plus parfait mélange entre le plaisir physique de l'exercice à la lumière des étoiles, dans un cadre d'une stupéfiante beauté, et le plaisir intellectuel de le faire avec des amis qui m'étaient chers. Plus tard, bien sûr, je me demandais si ma profonde sensation de bien-être n'était pas liée au cocktail de codéine et de benzédrine que le docteur Passang m'avait fait avaler. J'avais vaguement conscience d'avoir encore la gorge irritée, comme si j'avais avalé un objet en acier pointu, mais puisque ma toux s'était calmée au point que je pouvais facilement utiliser un masque à oxygène, cette sensation bizarre n'était plus si dérangeante. Nous grimpâmes sans être encordés, et nous dispersâmes sur cette première portion de l'arête constituée de roches couvertes de neige juste au-dessus du col nord, puis nous nous remîmes en ligne, mais sans allumer nos lampes ni les torches, et utilisâmes nos jumards pour nous cramponner aux nombreuses cordes fixes que nous avions installées sur toutes les parties abruptes faites de dalles inclinées. Au lieu de nous relayer à la tête du convoi comme nous l'aurions fait si nous taillions une voie dans la neige épaisse, nous fermions la marche à tour de rôle, puisque le dernier assumait la tâche fatigante de détacher chaque longueur de corde de son piquet, de l'enrouler et de la porter sur son épaule jusqu'à la longueur suivante. « Ah !» dit Jean-Claude au cours d'une de nos pauses pour changer de place.
« Je comprends. La nécessité d'empêcher les boches d'utiliser nos cordes fixes quand ils se lanceront à notre poursuite. Mais est-ce que ça ne compliquera pas notre descente ?»«
Nous en discuterons lorsque nous nous reposerons 5 minutes au camp 5. » dit le diacre.
D'après ce que j'avais pu voir, il n'avait pas encore utilisé son masque à oxygène depuis le début de l'escalade. Nous portions tant de bonbonnes que je ne comprenais pas pourquoi il semblait vouloir les économiser. Nous repartîmes. Aucun de nous ne prenait d'air anglais, même si nous avions des appareils supplémentaires dissimulés au camp 5 et 6. C'était comme si, selon quelque accord tacite, nous le réservions pour quelque chose. Par deux fois, nous entendîmes l'écho lointain d'un coup de feu en provenance de la vallée, mais il n'y eut pas de ricochet sur les rochers autour de nous, et je ne perçus pas non plus ce bruit nouveau et inquiétant d'abeilles cuirassées passant en bourdonnant à côté de moi. Même grâce à la lunette télescopique que le diacre avait obligeamment fixée sur son Lienfield pour que les Allemands puissent s'en servir contre nous, il était quasiment impossible, dixit notre leader, de distinguer des formes humaines vêtues de gris. Nous avions remis nos vestes Shackleton au-dessus de nos parkas et enfilé nos pantalons coupe-vent par-dessus ceux en duvet, sur du rocher et de la neige sale, la nuit à plus d'un kilomètre de distance. Nous avions moins de chances de recevoir une balle, nous avait-il assuré, que d'être frappés par la foudre, renversés par un camion, emportés par une chute de pierre ou une avalanche. Ces deux dernières hypothèses constituant des menaces bien réelles, je me serais probablement inquiété un peu plus si je n'avais pas été dans un état de quasi-béatitude pharmaceutique. Nous nous arrêtâmes au camp 5 pour les 5 minutes de repos et la bonne dose d'oxygène promise, mais passâmes ensuite un quart d'heure à démonter la grande tente de Reggie et répartir les piquets, la toile, la bâche anti-pluie et la toile de sol dans nos différents sacs à dos. Il y avait plus d'appareils à oxygène que nous pouvions en transporter, si bien que nous perdîmes encore plus de temps à les traîner laborieusement 150 mètres plus loin dans le champ des boulis de la face nord pour les cacher derrière un gros bloc de roche triangulaire. Sa forme distinctive serait notre seul repère si nous devions retrouver cet air anglais lors de notre descente, au cas où nous redescendrions vivants, vu que nous ne pouvions prendre le risque de marquer cette cachette avec des bambous ou des drapeaux. Nous dissimulâmes au même endroit la plus grande partie de la corde que nous avions trouvée dans ce camp 5. Chacun de nous portait environ 45 mètres de corde miracle sur les épaules ou dans son sac à dos, en espérant que ce serait suffisant lorsque nous rencontrerions des passages vraiment difficiles. De retour sur l'arête nord, nous étions tous pantelants après ces efforts quand enfin je posais la question qui me trottait dans la tête depuis un moment. Comment fera-t-on pour redescendre sans les cordes fixes? Ou est-ce qu'on les récupérera dans les caches avant de les réinstaller? On sera sans doute très fatigué. C'est une possibilité, dit le diacre entre deux bouffées d'oxygène. Enfin, il prenait de l'air anglais comme nous autres, à l'exception de Passang. Si les Allemands abandonnent, ou si nous réussissons à tous les éliminer, et si nous redescendons par cette voie. Quelle autre voie y aurait-il ? Demanda J.C. L'arête nord-est vers le lac Pala est impossible, Richard. C'est une arête en lame de couteau, émaillée de corniches, de pinacles et de précipices. De l'autre côté de l'arête nord, c'est un mur vertical de 3000 mètres jusqu'au glacier de Kangchung. Alors, à part la chute, vous pensiez à quelle autre voie ?
Le diacre s'appuyait sur son piolet, son énorme charge montant plus haut que sa tête. Il adressa à J.C. un sourire de loup. J'envisageais une traversée, dit-il. L'absence de vent lors de cette incroyable nuit nous permettait de parler normalement.
Une traversée ? Répéta J.C.
Il regarda la face, le sommet, puis de nouveau la face où le grand couloir étincelait sous les étoiles.
Pas par le grand couloir, n'est-ce pas ?
Il se transforme en un pic à une centaine de mètres en dessous d'ici.
Mais les avalanches nous emporteraient bien avant ça.
Aucune traversée sur la face nord ne pourra nous amener en bas, Richard.
Exact, dit le diacre. Mais que pensez-vous d'une traversée du sommet nord au sommet sud, avant de descendre au col sud, et jusqu'à ce que Mallory nommait le cirque occidental?
Sa suggestion fut ponctuée par un instant de silence, mais je vis les dents de Reggie briller à la lueur des étoiles. Entre le diacre et Lady Catherine Christina Regina Bromley-Montfort, on avait soudain l'impression d'être entraîné en haut de la plus haute montagne du monde par deux loups affamés.
C'est de la folie, dis-je enfin. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemble l'arête entre les sommets nord et sud, ou même, d'ailleurs, entre le premier ressaut et le sommet nord de ce côté. Même si nous réussissons, je ne sais comment, à atteindre le plus haut sommet de l'Everest, et à traverser jusqu'au sommet sud, et je doute que ce soit possible, la descente du sommet au col sud est probablement doublement impossible. Personne n'a jamais vu cette portion d'arête, encore moins tenté de l'escalader ou d'en descendre.
C'est vrai, mes amis, lâcha Jean-Claude d'un ton grave.
Nous en reparlerons lorsque nous serons au camp 6, proposa le diacre.
Je vois des petites lumières là où se trouvait notre camp 3, dit Reggie. Les Boches font commencer à tailler des marches dans le mur montant au col nord durant la nuit, et ils escaladeront à l'aube, prédit J.C.
J'aurais voulu continuer cette conversation à propos de la traversée impossible des deux sommets de l'Everest, mais le temps manquait. Nous endossâmes nos sacs à dos, laissâmes la tente mid effondrée et l'autre en lambeaux là où elle gisait dans la neige, et recommençâmes à monter pesamment la pente abrupte. Heureusement pour nous tous, il y avait de nouvelles cordes fixes à environ 60 mètres au-dessus du camp 5. Le diacre se plaça en queue de cortège pour enlever et enrouler les cordes à mesure que nous grimpions, se chargeant de la tâche pénible, tandis que nous autres serrions les jumards pour nous aider à monter, nous arrêtant tous les quatre pas pour aspirer de l'air. Nous avions tous adopté la technique Mallory que nous avait enseignée le diacre. Prendre l'inspiration la plus profonde possible, tout en sachant qu'elle n'était pas suffisante, compte tenu de la faible pression à cette altitude supérieure à 8000 mètres, l'utiliser pour parcourir quatre pas, puis s'arrêter pour souffler et recommencer. Et c'est ainsi que nous continuâmes à grimper tous les cinq en direction de l'aube.